Une heure avec les Gilets jaunes, mercredi 20 novembre 2018, à quelques mètres du giratoire de l'Hermé, entre Albi et Carmo.
Ça circule,
hein. Bonjour.
Bonjour.
Je travaille pour Radio LBGS. Est-ce que vous connaissez?
Oui.
Bon, alors, pour commencer, est-ce qu'un de vous veut bien nous expliquer un petit peu, juste qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là, qu'est-ce que vous faites, nous dire où on est
Nous sommes sur le rond-point de l'Hermé. Un petit peu en avant, comme vous le constatez. Là, mon rôle, moi, c'est de canaliser les voitures, de faire le tri des camions qui veulent s'arrêter ou ceux qui veulent continuer. Ceux qui veulent s'arrêter, s'arrêtent. Ceux qui veulent continuer, continuent. Il n'est pas question de bloquer qui que ce soit. Voilà. Et donc, on fait une sorte de petit barrage filtrant, mais c'est très léger puisque les voitures sont à peine retardées. Parce qu'ils perdent même pas 5 minutes les gens, donc voilà. Parce qu'il faut faire attention de ce que je disais aux dirigeants, je suis pas un dirigeant, mais je pourrais en être un, parce que je suis contre le fait de bloquer les gens, et j'ai presque même l'intention de monter mon parti, si ça continue, le parti que j'appellerai des Gilets Orange, parce que je suis contre le fait de bloquer. Alors on sera sous la bannière, on serait sous la bannière des Gilets Jaunes, mais avec des gilets oranges, et on occuperait les ronds-points sans embêter qui que ce soit. Parce que je suis contre le fait, moi personnellement, et vous êtes tombé sur moi, vous n'avez pas eu de chance, ou vous avez eu de la chance à la fois.
De toute façon, à la radio, on aime les gens qui parlent.
Voilà.
Donc,
moi je suis absolument contre le fait de bloquer qui que ce soit. Voilà. J'ai fait 68, donc je sais de quoi je parle, hein, je ne suis pas un jeune, effectivement. Et j'avais 18 ans en 68 et j'ai subi les charges de CRS, donc je connais un peu l'affaire. Et je ne veux pas que ça se renouvelle, je ne veux absolument pas que retomber dans des affrontements avec la police, etc. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement politique qui se veut pacifique. Et donc, il faut qu'on garde le peuple avec nous, absolument, et qu'on ne se mette pas les pouvoirs publics et notamment les policiers à dos.
Et tout à l'heure, vous avez parlé des dirigeants.
Oui.
Est-ce que vous faisiez référence à certains dirigeants du mouvement, des Gilets jaunes?
Oui.
Alors, comment ça s'organise? Est-ce qu'il y a déjà une hiérarchie en place ou quelque chose comme ça?
Il y a une hiérarchie, oui. Alors, le mouvement est né sur Albi de certains qui ont décidé, et vous pourrez aller les rencontrer, je vous donne leur prénom. Et donc, vous pourrez les rencontrer tout à l'heure. Je ne donnerai que leur prénom, comme ça, ils resteront anonymes
quand même. Vous me les décrivez physiquement, ça me suffit.
Et donc là, vous verrez deux, notamment dirigeants. Ils sont plusieurs. Ils sont 5 ou 6 au moins sur le rond-point. Mais ils sont dans ces deux-là, dont je connais le prénom et avec qui je suis en liaison régulièrement. Que je suis allé voir ce matin justement pour leur dire que je menaçais de quitter le mouvement si on faisait un blocage et créer mon propre mouvement, vous voyez. J'allais les voir parce que je trouve inadmissible de bloquer les gens, parce que quand je suis arrivé sur le rond-point, il y avait un camion qui était arrêté, qui bloquait tout, et le gars était parti boire un café et on bloquait tout le monde, et là je suis pas d'accord. Donc il faut pas bloquer les gens, et c'est ce qui se passe là. Vous pouvez voir, c'est un barrage filtrant, vous voyez, il y a même plus de voitures devant nous, c'est pour dire que ça passe quand même correctement.
Et du coup, alors parce que bon, je me fais un peu l'avocat de toutes les discours différents que j'entends, mais on pourrait dire, vous, qu'en plus qu'il avait fait mai 68 et il a fallu arriver à un certain degré d'affrontement pour obtenir quelque chose. Comment vous pouvez dire maintenant, aujourd'hui, qu'il ne faut pas déranger, il ne faut pas bloquer pour quand même avoir peser sur les négociations?
Parce que de toute façon, même si moi j'espère qu'on pèsera sur les négociations s'il y a beaucoup de gens qui se joignent à nous, et puis on le voit, il y a beaucoup de gens qui nous disent tenez bon, on est avec vous, etc., de tout cœur, et vous avez des gens qui rentrent chez eux le soir et qui viennent nous rejoindre sur les ronds-points après leur travail. Malheureusement, ils sont obligés de travailler, donc ils peuvent pas être non plus tous dans la rue, hein, sauf que bon, le soir il y en a beaucoup qui viennent nous rejoindre et nous renforcer, et que si ce mouvement dure dans le temps, le gouvernement sera bien obligé à un moment donné d'en tenir compte. Voilà. Et si on a énormément de pourcentage d'opinions favorables nous concernant, le gouvernement sera aussi, je pense, obligé d'en tenir compte. Ça sera un mouvement qui se fera par la démocratie, mais vraiment la démocratie du peuple, sans aucune violence, juste par la volonté. Et cette volonté, il faut qu'on la manifeste, justement, mais de façon absolument pacifique. Voilà. Et moi, je crois en ça. Et je crois que si tout le peuple, on arrive à gagner presque tout le peuple, au moins les trois quarts, si ce n'est les 9/10, on gagnera. Parce que, et de toute façon, si on ne gagne pas aujourd'hui, on gagnera dans 2 ans et demi pour les élections.
Alors justement, quand vous dites gagner, c'est quoi en fait? Ce serait quoi pour vous gagner?
Gagner, ce sera mais c'est tout, les revendications, et notamment la principale, c'est déjà qu'ils cèdent sur l'augmentation des taxes sur les produits pétroliers, quoi, fait sur le gasoil et sur l'essence, et qu'ils suppriment les prochaines taxes à venir, etc. Parce que c'est tout le peuple qui roule en voiture. Hein. Les gens à Paris, là-bas, je sais que les trois quarts des Parisiens, et j'ai un fils qui habite à Paris, ils n'ont pas de voiture, mais dans les campagnes, tout le monde a une voiture. Et donc, c'est tout le monde qui subit ces taxes, parce qu'il ne faut pas oublier que sans les taxes, le gasoil, il ne serait même pas un euro, il serait loin d'un euro même. Donc, c'est les taxes qui grèvent le budget du peuple. Et quand vous avez des gens qui gagnent 1 000 euros par mois, et 10 euros de plus à chaque plein, c'est pas rien, quoi. Et puis ça s'ajoute à toutes les autres mesures que le gouvernement est en train de prendre. Comme c'est facile de promettre les mutuelles, les prothèses dentaires gratuites quand on augmente les mutuelles, parce que toutes les mutuelles vont augmenter, etc. Donc systématiquement, si vous voulez, ce sont des promesses qui servent absolument à rien. On nous reprend toujours, de toute façon, on nous reprend et on nous reprendra toujours ce qu'on va nous donner ou faire semblant de nous donner, on nous le reprendra d'une autre façon. Voilà. Parce que de toute façon, c'est vrai que la France a un budget, mais dans le budget de la France, si on enlevait des choses qui servent absolument à rien, les grandes, tous ces députés qui s'endorment à l'Assemblée, qui sont payés à rien faire, tous ces sénateurs qui sont beaucoup plus nombreux, tous ces employés, j'entendais ce matin, un employé, le moindre petit employé qui travaille à l'Assemblée nationale, il gagne 6 000 euros par mois. Hein, et vous avez des grands fonctionnaires qui gagnent jusqu'à 28 000 euros. J'écoutais le général de Villiers ce matin, il disait dans l'armée... Dans l'armée, le rapport, c'est de 1 à 8. C'est-à-dire que le plus grand général, il gagne 8 fois ce que gagne un soldat, pas plus. Pourquoi on ferait pas ça dans le civil? Pourquoi on n'aurait pas un rapport de 1 à 8 quand on voit ce qui se passe avec Carlos Ghosn, qui est non
dans
seulement...
Dans le privé, alors, du coup, aussi.
Comment?
Pourquoi on ferait pas ça dans le privé, non plus?
Oui, mais quand on voit ce qui se passe avec... Non, mais il faut pas oublier que les voitures... Qui c'est qui achète les voitures? C'est le peuple. Et vous croyez que ce que gagne Carlos Ghosn, c'est pas le peuple qui le paye? Ça se répercute dans les prix des voitures, forcément. Donc,
Ah non, mais cette idée de rapport de que celui qui gagne le plus dans la boîte, si on peut dire que ça comme ça, ne gagne pas plus de 10 fois plus celui qui gagne le moins, bah c'est quelque chose de très...
Voilà, mais ça existe dans l'armée, je vois pas pourquoi ça n'existerait pas ailleurs.
Oui.
Les plus grands généraux, voilà, ils gagnent 8 fois la solde d'un soldat. Et c'est très bien, et ça fonctionne très très bien. Citez-moi un organisme qui fonctionne mieux que l'armée, j'en trouve pas, moi.
Je sais pas, je suis pas assez au courant de tout ça. Mais par contre,
je suis au courant.
Vous avez parce le tri oui, avec des scratchs.
J'ai fait 28 ans d'armée aussi.
D'accord.
Bon, alors c'est vrai que je parle.
Non, mais pas de problème.
Mais pour moi, l'armée, c'est quand même un exemple d'organisation. Et comme disait le général de Villiers, si vous voulez amener vos hommes au combat, si vous voulez qu'ils vous suivent, et c'est de leur vie qu'il s'agit là. C'est pas de 40 centimes de plus ou de moins à la fin du mois, c'est de leur vie. Il faut que vous aimiez les gens. Et si Macron, il veut que son peuple l'aime et qu'il le suive, il faut que lui, il aime son peuple. Et s'il n'aime pas son peuple, ce qu'il fait à l'heure actuelle, ça démontre qu'il n'aime pas son peuple, parce qu'il ne l'écoute pas.
Mais du coup, pour revenir sur un petit peu la revendication principale dont c'est parti, ça a été un ras-le-bol par rapport aux prix de l'essence qui sont trop chers.
Oui, parce que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
Je comprends. Voilà. Mais alors, par rapport à juste cette chose-là, moi j'ai l'impression, je suis assez jeune, j'ai pas 30 ans, et que depuis que je suis à l'école, en fait, on n'arrête pas de nous parler du fait que le pétrole, c'est une énergie qui n'est pas renouvelable, qui va finir par s'épuiser à un moment, et que donc cette situation, elle était sûre d'arriver à un moment.
Super que vous posiez cette question. Et là, je vais y répondre. C'est pas en taxant le petit gars du peuple, soi-disant pour des motifs écologiques, qu'on va résoudre la question de l'écologie. Parce que déjà, les taxes supplémentaires qu'on met, elles ne vont pas à l'écologie, très peu, il y a une petite part. Tout le reste, ça va dans les poches du gouvernement, évidemment. Et puis, si on veut vraiment faire de l'écologie, il faut arrêter tous les bateaux et tous les avions. Il faut leur mettre des pots catalytiques, il faut leur mettre un tas de choses comme ça. Un bateau, et alors là, c'est les scientifiques qui l'ont dit,
oui,
c'est
mais,
pas moi.
Non, mais je suis d'accord qu'un bateau pour le plus qu'une voiture.
Un bateau,
mais vu
comme des millions de voitures, oui. comme un bateau pollue comme des millions de voitures. Alors je ne sais plus, il y en a qui disent 50, peut-être c'est un peu exagéré, comme des millions. Bon, quand vous prenez le nombre de bateaux qui font l'aller-retour avec la Chine, hein, la pollution que ça crée, le nombre d'avions qui sont dans le ciel, des milliers d'avions et des milliers de bateaux, je vous garantis que ça pollue beaucoup plus que les voitures diesel qui roulent sur nos routes.
Il ne suffit pas de dire je vous garantis pour que ce soit vrai. Hein. Je vérifierai les chiffres, mais les derniers que j'ai vus, ce n'était pas cela. Hein.
Vérifiez quand vous voulez, mais vérifiez.
Je ne diffuserai pas ça sans l'avoir vérifié. Non.
C'est une statistique qui circule depuis des années. Les 15 plus gros bateaux du monde pollueraient autant que la totalité des voitures sur la planète, soit plus de 800 millions de véhicules. Les versions changent un peu parfois, le nombre de navires aussi, mais l'idée reste la même, effrayante. La source de cette affirmation est une lecture un peu trop rapide des travaux d'un chercheur américain, James G. Corbett. Ce dernier a réalisé un calcul théorique en 2009 pour alerter sur la pollution aux oxydes de soufre due au secteur du transport maritime qui utilise un carburant beaucoup plus soufré que celui que vous mettez à la pompe dans votre voiture. Il a calculé que si 16 mégatransporteurs utilisaient le pire carburant disponible, ils émettraient autant de dioxyde de soufre que toutes les voitures du monde roulant avec le meilleur carburant disponible. Certains ont fait de cet exemple extrême une vérité générale. Vérité qui est d'autant plus douteuse aujourd'hui que la part d'oxyde de soufre dans le diesel marin est passée de 4,5% à 3,5% en 2012 et devrait tomber à 0,50% en 2020 selon les réglementations de l'Organisation maritime internationale. Dans quatre zones, la mer Baltique, la mer du Nord, la mer Caribéenne et une zone autour de l'Amérique du Nord, ces concentrations devront même rester sous 0,1%. Ajoutons que cette statistique, déjà très contestable pour le dioxyde de soufre, ne s'applique pas aux émissions de CO2 ou encore à la consommation de fuel, contrairement à ce qu'on peut lire parfois. Cela n'enlève rien à la réalité de la pollution, bien réelle, du secteur maritime, mais les chiffres les plus chocs sont parfois aussi les plus tocs.
Ensuite, ce que je veux dire, parce que de là, il faut repartir, on parle de la mondialisation. Mais la mondialisation, c'est quoi? C'est toutes les grandes entreprises qui ont délocalisé vers la Chine, etc. Et aujourd'hui, on vous parle de pollution. Mais c'est la grande finance qui a créé la pollution. Ils ont tout on délocalise vers la Chine, vers l'Inde. Et après, il faut ramener tout ça en Europe. Et c'est les bateaux, les gros bateaux qui polluent le plus, des milliers de bateaux qui ramènent ça en Europe. Et donc, la trace carbone, si vous voulez, elle est beaucoup plus importante à ce niveau-là. Parce que si on produisait beaucoup plus sur place, on n'aurait pas cette pollution et cette trace carbone aussi importante.
Non mais je suis bien d'accord avec ça. Hein. Je ne veux pas tout mélanger, juste pour revenir sur le fait de taxer les gens qui polluent, moi je suis d'accord. Le fait de taxer ceux qui polluent le plus, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire,
c'est un prétexte. Pour le moment, taxer les automobiles, c'est un vaste prétexte, c'est tout.
Mais c'est juste par rapport au fait de la raréfaction du carburant. C'est un truc, c'est logique, je veux dire, en temps de guerre, il n'y a plus de nourriture, donc la nourriture coûte plus cher.
Attendez.
Je veux dire, laissez-moi finir la question.
Oui, pardon.
On sait qu'on arrive sur une phase où nous, notre génération, on va connaître la fin du pétrole, parce que c'est des études qui nous le disent depuis que je suis, comme je vous dis, depuis que je suis au collège, depuis que je suis au lycée, on nous dit que dans moins de 50 ans, ce sera la fin du pétrole. Oui. Donc logiquement, il ne peut pas y avoir d'autre issue possible que l'augmentation du prix. Et c'est ça que je veux dire. Et donc du coup, est-ce que... Au final, c'est pas la finalité qui est pas la bonne, parce que dans le sens où c'est pas, on veut pouvoir continuer à utiliser un carburant qu'on sait qu'il va finir par plus exister sur Terre.
Non, mais alors que l'augmentation du prix résulte d'un phénomène naturel de raréfaction, là je suis entièrement avec vous, mais n'oubliez pas que dans le prix d'un litre d'essence, il y a 60% de taxes. Donc ça, on pourrait très bien les éviter. Alors après, qu'on ne puisse pas éviter le prix par la suite, à cause de la raréfaction, c'est la loi de l'offre et la demande. Là, on est d'accord, le prix va monter, mais ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Le prix est en train de redescendre là, et le gouvernement veut augmenter au contraire le prix. Il va encore augmenter les taxes. Donc là, on n'est pas dans le bon truc. C'est pas la loi de l'offre et la demande. Je suis d'accord avec vous que le pétrole va augmenter, mais sachez que dans les gilets jaunes, on est tous aussi, la plupart des gens qui sont un peu sensés sont écolos. Et il est évident qu'il va falloir aller vers des énergies de transition, des énergies vertes, que ce soit les éoliennes, les panneaux solaires ou d'autres énergies, hein, comme l'hydrogène, merci, etc. Donc ça me paraît évident. Mais déjà, toutes les augmentations sur les taxes, sur l'augmentation des taxes sur les produits pétroliers allaient à l'écologie, encore là, à la limite, on serait d'accord. Mais ça va pas à l'écologie, ça va dans les poches du gouvernement. Encore une fois, une très petite quantité va à l'écologie. Et donc, on voit bien que c'est un prétexte pour faire rentrer de l'argent dans les poches du gouvernement, cette histoire d'écologie. C'est vraiment qu'un prétexte. On trompe tout le monde en faisant croire qu'on veut faire de l'écologie en taxant le pétrole. C'est faux.
Et du coup, vous qui êtes là dans le mouvement depuis samedi, j'imagine.
Oui, depuis samedi matin. Et
est-ce
oui.
que c'est un discours qui trouve quand même écho chez les Gilets jaunes, ce discours de l'écologie et du fait de dire on est d'accord que les taxes, il y en a peut-être trop, elles ne sont pas redistribuées où il faut, mais est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à la question de ce qu'on appelle la transition énergétique? Et comme vous avez dit, quand on est un petit peu sensé, l'écologie, on se rend compte que c'est une priorité. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon point de vue.
Oui.
Et donc, du coup, c'est quoi un petit peu le discours là-dedans, au sein des Gilets jaunes, par rapport à ça?
Moi, écoutez, j'ai discuté qu'avec quelques-uns, donc je ne pourrais pas vous donner l'opinion générale des Gilets jaunes, sinon je m'en tirais. Je n'ai pas fait de sondage pour vous dire que... Mais la plupart des gens sensés avec qui je discute, etc., sont tout à fait d'accord en disant « Mais oui, l'écologie, on est pour l'écologie. » La plupart des gens sont pour l'écologie, oui, c'est sûr. Il n'y a pas de... Maintenant, je vous dis, moi, je n'ai pas fait de sondage, je ne peux pas vous donner de chiffres... Je mentirais si je vous disais le contraire.
Je comprends bien, je ne les ai pas non plus, mais c'est pour ça que je viens vous voir, pour voir les gens en vrai.
De toute façon, après, il faudrait faire un sondage, effectivement, sur qui est pour... Moi, je suis à fond pour l'écologie, il n'y a aucun souci. Mais je crois que tous les gens sensés le sont. Mais, encore une fois, le fait de taxer le pétrole, c'est un faux prétexte pour dire on fait de l'écologie. Et pour l'écologie, on est obligé d'augmenter. C'est faux. C'est absolument faux.
Par rapport à ça, on est d'accord que ce qu'ils appellent la taxe carbone qui est prélevée sur le prix de l'essence ne va pas du tout intégralement à la transition écologique.
Oui, mais toute façon, rien n'empêche l'État de réduire ses taxes. Rien ne l'empêche. Si l'État maintient ce 60% de taxes sur les produits pétroliers, ça veut bien dire que c'est lui qui met la pression sur le peuple. C'est lui qui met la pression sur notre portefeuille. C'est pas le pétrole en tant que tel. Le pétrole en tant que tel, j'ai pas fait le calcul, il doit valoir, 0,50 ou 0,60 à la pompe, il vaudrait sans les taxes. Vous voyez, si on fait le calcul, on peut le faire.
Je ferai ça en rentrant
déjà,
au bureau.
Non, mais déjà 50% de 1,50€, c'est 75 centimes. Hein. Donc déjà, c'est en dessous de 75 centimes, le prix du pétrole, c'est clair, puisque c'est 60%.
Et du coup, ça m'a fait penser à une autre question. Mais si jamais, admettons, donc vous êtes plutôt pour l'écologie, vous trouvez que c'est une bonne chose et qu'il faudrait, accélérer la transition écologique, ou au moins s'y mettre un peu plus. J'ai pas fini ma question. Mais du coup, si jamais on vous disait, mais alors du coup, on garde les mêmes taxes sur le carburant, mais on vous garantit, sous couvert de chiffres transparents et tout ça, on vous garantit que tout ça va aller à la transition énergétique. Qu'est-ce que vous en penseriez ?
Ça pourrait faire réfléchir, mais je pense qu'on peut faire de l'écologie, encore une fois, sans mettre 60% de taxes sur les produits pétroliers. Si on dit, par exemple, il y a 40 ou 50%, on vous garantit que 40 ou 50% des taxes sur l'essence vont aller à l'écologie, on est entièrement d'accord. Mais pourquoi 60? On peut faire un geste pour le peuple en diminuant de 10 ou 20% les taxes et de dire après toutes les taxes vont... Là ça serait le paradis, ça serait l'idéal. Mais je ne pense pas qu'on y arrive un jour, malheureusement.
Oh, c'était une idée comme ça,
oui,
mais ce serait pas mal. Ce serait une belle annonce.
Oui, mais je pense que c'est une idée de quelqu'un qui est un peu idéaliste. Désolé pour vous.
Je sais que je le suis.
Voilà.
C'est ça qui est quand on est jeune encore.
Oui, mais c'est normal. Ah, mais il faut avoir des idéaux. Hein. Si on veut avancer dans la vie, il faut aussi avoir des idéaux. Je suis entièrement d'accord.
Bon, mais merci beaucoup. C'était très intéressant comme conversation et je vais aller voir un peu vos collègues qui sont plus haut sur le rond-point.
Donc, vous
pouvez nous rappeler votre prénom ?
Moi, c'est Michel.
D'accord. C'était pure coïncidence, mais donc vous, à savoir que vous participez aussi à une émission sur Radio Albigès qui s'appelle Dessine-moi un bateau. Ouais. Et c'est donc, il me semble, si je ne me trompe pas, c'est les lundis. Le mardi à 17h. Hein.
Oui.
Merci beaucoup.
De rien.
Bonne journée, bon courage.
Merci de
bien. Alors on continue. Donc on s'avance vers le rond-point, le giratoire de l'Hermé. Il commence à y avoir de plus en plus de voitures et de camions. Il y a des camions qui sont arrêtés le bord de la route. Donc tout à l'heure on nous a dit que c'était des véhicules qui avaient fait le choix de ne pas continuer. Donc on va essayer d'aller voir comment ça se passe, quelles sont les consignes que donnent les gilets jaunes aux automobilistes. Alors à savoir que tout à l'heure, on a vu passer, j'ai vu passer une voiture de police qui n'a absolument eu aucune interaction avec les gilets jaunes qui étaient là en train de faire le début de la circulation sur la route. Donc on s'avance près du rond-point et puis on va voir ce qui se passe. Bonjour.
Bonjour.
Je travaille pour Radio Albigès. Est-ce que je peux vous poser quelques questions?
Pas moi.
Oh, vous battez pas, hein. C'était juste pour savoir un petit peu, c'est quoi là les consignes que vous donnez aux automobilistes? Je vois qu'il y a des camions qui sont arrêtés.
Nous, on est routiers.
Vous êtes routier?
Ouais.
Ok, d'accord.
Donc, nous, on est arrêtés. Et après, ils bloquent personne. Mm-hmm. Vraiment pas ce qu'ils veulent. Après, bon, voilà, ils demandent un minimum de soutien, ce qui est logique en soi. Donc, par soutien, on s'arrête une demi-heure, trois quarts d'heure. Et après, on repart, quoi.
D'accord.
Ça reste bon enfant, là.
Ouais. Et donc c'est eux qui vous ont laissé le choix en fait, ils vous ont dit bah, soit vous mettez là, voilà, soit on vous laisse arrêter, continuer.
Soit vous passez, et donc bon, nous on avait la coupure à faire, donc bon, on s'arrête, on soutient et on profite du café des croissants et voilà, et après on repart gentiment et bon enfant.
Ouais, bah, merci beaucoup, je vous laisse continuer la pause alors, je m'avance, merci à vous. Bon, ben on a la confirmation du coup que les camions qui sont arrêtés le sont parce qu'ils l'ont bien voulu et parce que donc ça a été demandé comme preuve de soutien par les gilets jaunes. Bon, alors je remarque quand même que quasiment, hein, vraiment, la quasi-intégralité des véhicules qui passent et qui s'apprêtent à aller vers le rond-point ont mis leurs gilets jaunes sur le tableau de bord. Voilà, je sais pas si c'est est-ce que parce qu'on leur demande ou parce que du coup ça leur permet de se faire mieux voir par le mouvement, je ne sais pas.
Ça va ? Non, si ça va, ça va ! Allez, bonjour ! Allez, bonjour !
Bon, alors on arrive sur le giratoire là. Je suis très mauvais en chiffres, donc je ne saurais absolument pas donner une approximation du nombre de personnes qu'il y a. Je dirais entre une cinquantaine, j'en sais rien.
Bien.
Bonjour. Petite ambiance musicale sur le rond-point.
Pour Radio Albigès, est-ce que il y a quelques-unes d'entre vous qui veulent bien échanger avec moi? Radio Albigès, vous connaissez? C'est une radio associative à Albi, voilà, locale. Et vu qu'on n'est pas encore venu voir les gilets jaunes, on venait.
Pour voir avec le chef.
Ouais.
Vous avez déjà des chefs?
Eh oui.
Ah, ils vont le chercher.
Et je peux vous demander?
Oui, faut voir là-bas.
Non?
Le gars là-bas.
D'accord. Je sais pas qui. Vous m'avez dit qui?
Celui qui est en train de discuter avec l'autre qui était avec moi là. Qui a la capuche sur les épaules.
Tu veux voir? Bonjour.
Là j'ai tellement de notifications.
Bonjour.
Ça m'a bouffé la batterie.
Bonjour. Alors c'est à qui qu'il fallait s'adresser?
Je sais pas. Toujours les gens qui ont les pieds sur les pneus.
Il y a une dame qui sait bien parler.
Ouais. Les femmes, c'est toujours.
Et celui qui avait le polo rouge là.
Bah, parfait. Hein. J'ai eu un homme tout à l'heure, une femme, et comme ça, ça fera la parité. Bonjour.
Voilà.
Je travaille pour. Bonjour. Je travaille pour Radio Albigès. Vous connaissez?
Non.
C'est une radio associative à Albi. Il faut écouter, c'est bien. Une radio locale. Et donc du coup, on avait encore.
Ah, ils arrivent.
D'accord.
Si jamais vous avez la coste là.
Alors du coup, on m'a dit donc qu'il fallait aller voir les chefs, c'est ça? Est-ce que vous êtes déjà parmi une des chefs? Il y a déjà une hiérarchie dans le mouvement.
C'est Macron le chef.
C'est Macron le chef encore.
D'accord.
Peut-être plus pour très longtemps, mais je vais vous les trouver moi.
Eh ben, je vous suis alors.
Stéphane,
Alors pour décrire un peu.
Je souhaite interviewer ou toi ou Jenny.
Bonjour.
Vous êtes.
Vous travaillez pour Radio Albigès. Radio Albigès. Vous connaissez
Albi, non, pas du tout.
Ah.
Non.
Ben, c'est la radio locale albigeoise.
Moi, j'ai le bois qui est cassé.
Jenny, sinon je.
Jenny, elle est partie se reposer. Guillaume a la voix cassée aussi.
Olivier.
À la limite, Ludo.
Ouais.
Et c'est le seul qui. Moi j'ai la voix qui est cassée.
Après moi je voulais juste parler à n'importe qui en fait, hein, qui est des représentants
non,
du
non,
mouvement
non,
et tout.
Ouais, parce qu'on peut pas tous parler.
À Ludo sinon.
Ah
bonjour. Bonjour. Alors vous allez m'intéresser.
D'accord.
Ouais, avec l'accueil. Oui, là ça enregistre.
C'est pas d'accord. En direct du tout, rassurez-vous, mais ça enregistre.
Ah ouais.
Et donc,
qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce que je pense de Sarko? De non, Hollande, de tout ça là, de Macron, de... Non mais je parle de l'équipe de choc quoi.
Ouais, non, parce que ça fait longtemps que ça dure.
Je parle de la Funky Family, comme on dit chez moi à Marseille. D'accord. Voilà.
Vous êtes de Marseille?
Ouais.
Et vous venez bloquer ici?
Ouais.
D'accord.
Il manque de personnel ici.
D'accord. Donc. Non, du coup, la question, bah, c'est que j'ai voulu parler à plusieurs personnes et on m'a dit qu'ils cherchaient des représentants ou des chefs du mouvement. Comment ouais. Ça s'est mis en place, cette espèce de hiérarchie déjà du mouvement
Comment ça s'est mis en place, je pourrais pas vous dire exactement. Je suis là, je sais pourquoi je suis là, je sais pourquoi tout le
vous
monde est là.
Je vous donne la réponse.
Oh, bah, si vous voulez.
Demandez à Macron.
Ouais.
Voilà, vous l'avez votre réponse. Demandez voilà comment
je dirais mieux.
C'est Macron.
Je dirais mieux.
Comment ça s'est mis en place.
Attends, je vais finir, s'il te plaît.
Vas-y, mon lapin.
Je vais dire mieux. Je suis là, on est là, on est tous là parce que on en a marre de payer des taxes sur des taxes. On est des robinets, quoi. C'est un robinet ouvert qui n'est jamais fermé, quoi. Donc, c'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol pour tous les Français, pour tout le monde. Il y en a marre quoi. Au bout d'un moment, il faut passer à autre chose quoi. On n'est pas des vaches à lait quoi.
Ouais, je suis d'accord, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de taxes et tout ça, mais après, je parlais avec un autre collègue à vous qui portait aussi un gilet jaune et qui me disait que le problème c'était peut-être la mauvaise utilisation de ces taxes. Le fait que, par exemple, pour prendre l'exemple du carburant, on taxe beaucoup le carburant en disant que ça va vers la transition écologique, mais qu'en fait il n'y en a qu'une petite partie qui y va. Est-ce que vous, si jamais on vous montrait que les taxes étaient bien utilisées, que ça servait vraiment au peuple, est-ce que vous seriez d'accord pour les payer?
Non.
Non, d'accord.
Pas comme ça. Parce qu'ils vont nous mentir, ils vont nous endormir.
Ouais, ouais.
Ils sont trop forts.
Des taxes, il aussi des...
Ils vont nous endormir.
Ils font des salaires mirobolants. Je veux dire, il faudrait qu'ils se mettent comme le peuple, des salaires décents, comme ça. Quand tu gagnes 15 000 euros par mois, les taxes, tu t'en fous finalement. Mais quand t'as pas de salaire, c'est là que ça devient important. Et eux, ça, ils le comprennent pas. Ils le comprennent pas. Si, ils le comprennent très bien. Ils s'en foutent. C'est pas leur problème finalement. Ça vient de là. Fait que, faut déjà changer à la base. Le gouvernement, c'est eux, ils s'en mettent plein les poches. Il faudrait déjà commencer par ça, à mon avis.
Et du coup, on dit que c'est un mouvement qui est apolitique. Mais c'est vrai qu'il a été, il est de plus en plus soutenu en plus par par différents partis et tout ça qui sont pas
Roucher,
forcément
par exemple,
d'accord.
Ils s'arrêtent d'eux-mêmes.
Oui, c'est vrai, je viens de parler avec
on
eux là tout à
l'heure. On n'a plus besoin de les arrêter, ils s'arrêtent d'eux-mêmes. Les infirmiers qui arrivent, les chauffeurs de bus qui arrivent.
Il n'y a pas de politique ici, il n'y a pas de syndicat.
Il n'y a pas de syndicat.
C'est
des Gaulois qui sont là.
C'est un rassemblement citoyen. Qui prend d'ampleur et on s'y retrouve tous quoi.
Quel âge vous avez, jeune homme?
Moi?
Ouais.
J'ai 26 ans.
On le fait pour vous, ça. On le fait pour vous, mettez-vous le bien dans la tête.
Oh, moi merci. J'ai eu mes combats aussi.
Pour vous?
Moi maintenant, mon combat c'est de vous rendre compte de tout ce.
Pas de vous spécialement, votre génération. Quand je dis vous, c'est. J'ai un enfant qui a 6 ans de moins que vous. Oh, je le fais pour elle. Je le fais pour ses enfants. Je le fais pour tout le monde.
Vous pouvez discuter avec.
Et une chose à dire, c'est que ça, c'est plus arrivé depuis mai 68.
Ouais,
et enfin, les Gaulois, comme dit Monsieur Macron, que je respecte malgré qu'ils ne nous respectent pas, depuis mai 68, on est en 2018, comptez les années que ça fait, c'est jamais arrivé.
Et la majorité des Gilets jaunes n'ont jamais manifesté.
Voilà.
Ce sont ceux qui sont là, la majorité des Gilets jaunes en France, là,
Et est-ce que vous, parmi juste les gens qui sont là, est-ce que vous aviez déjà manifesté avant ou pas?
Jamais.
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 Tous là, c'est la première fois.
Jamais.
Et tous ceux avec qui on discute, jamais.
Et alors, c'est quoi le truc qui vous a touché le plus?
Le portefeuille.
Le
portefeuille.
Et comment vous avez eu vent du mouvement et par quels moyens? On dit que c'est un mouvement qui s'est beaucoup monté sur les réseaux sociaux.
Oui, c'est ça. Exactement ça.
On a la chance, entre guillemets, on a la chance de vivre dans cette période-là où il y a les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a 40-50 ans, il n'y avait pas ça. et qu'il se passait les mêmes choses et il se coinfrait autant, sauf que ça se parlait pas, ça se disait pas. Aujourd'hui on le sait. Et aujourd'hui on. Voilà, et puis là, on est d'accord que c'est un ras-le-bol général, et puis c'est pas prêt de s'arrêter. Quoi.
Dites-moi une question.
Ouais, du racket.
Je voudrais poser une question. Je sais pas où ça va aller cet enregistrement.
Mais ce sera diffusé.
Mais sûr. J'aimerais avoir une réponse à ma question.
Oui.
Combien ça coûte pour monsieur Macron, style un avion France-Berlin comme il a fait là dernièrement, combien il dépense de gasoil ou de kérosène, je ne sais pas comment vous appelez ça, vu que Total n'est pas taxé, le plus grand pollueur du monde n'est pas taxé, combien ça coûte pour un vol comme ça, vu qu'il en fait pratiquement toutes les semaines et très souvent, combien ça coûte?
2000 litres.
Moi personnellement, je ne sais pas.
Non, je ne vous demande pas à vous. C'est une question à monsieur Macron.
D'accord. Je ne sais pas s'il l'entendra. Ce serait un honneur. Hein,
oh, je vous ai dédicacé quelque chose. Malgré
sa tête.
Si je peux me permettre, malgré sa tête de grincheux, j'en suis sûr que le soir, quand il est dans son lit avec ses oreillettes, il regarde qu'est-ce que son peuple dit, qu'est-ce que ses Gaulois disent.
Et du coup, pour revenir un petit peu sur le fait que c'était tous votre première participation à une manifestation, et du coup, il y a quand même des mouvements sociaux réguliers, que ce soit lancé d'un côté par les syndicats, mais pas seulement, c'est aussi des fois...
Il n'y a pas de syndicats.
Non, mais laissez-moi finir. C'était juste... ça peut être lancé aussi par des corps de métier, comme les infirmiers, par exemple, les personnes qui travaillent en EHPAD, ou tout ça. Enfin, il y a eu beaucoup d'autres mouvements, et pourquoi est-ce que vous y reconnaissiez pas avant dans ces mouvements?
Enfin, vous
tous, hein, pas forcément vous, vous personnellement.
On va vous expliquer, parce que jusqu'à maintenant, on était des vaches à lait. On avait peur. On avait peur d'aller dans la rue. On avait peur de nos crédits, nos maisons, nos enfants, manger, boire, nos sorties, s'habiller. On avait peur de priver nos enfants.
Donné, quand tu vois le gouvernement, que quoi qu'il fasse, quoi qu'on dise, il n'y a rien, qu'en fait, ils changent. Leur mot, c'est on garde le cap. À un moment donné, tu gardes le cap, mais nous, on ne peut pas garder le cap. Nous, le cap, c'est mort, il n'y a pas de cap, quoi. Pas comme ça. Fait que là,
vous vous rendez compte, tout ce qu'on est près d'arriver.
Monsieur n'a pas encore parlé.
Le problème, quand il n'y a plus de dialogue, on sait très bien que le dialogue, c'est ce qui fait avancer le monde. S'ils ne nous laissent plus le choix d'avoir un dialogue, ça sera la violence. Mm-hmm. Automatiquement, après, s'il n'y a pas de dialogue, il y a de la violence. Donc s'ils nous empêchent de dialoguer, et dans n'importe quelle communauté, si on ne peut pas échanger, il y a de la violence.
Et du coup, est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir un dialogue depuis que le mouvement a commencé? Est-ce qu'il y a eu des représentants?
Alors, je vais revenir. Une dernière chose, après je reprends mon poste. Ce que je comprends pas, il y a une chose que je comprends pas, c'est pourquoi M. Macron envoie ses, je vais employer un mot cru, ses sangliers là, pour nous dire de partir. Pourquoi il vient pas nous voir? C'est notre président, on est son peuple. Pourquoi il vient pas dire qu'est-ce que c'est qui va pas? On en discute, on en parle. Pourquoi il fait pas ça? Moi, on m'a toujours dit quelque chose. On m'a toujours dit quelque chose. Personne qui se cache, quelque chose à se reprocher.
Oui, mais il y a des préfets.
Voilà. Je vous remercie d'être venu m'interviewer.
Pas de problème. Moi, j'en ai pas fini avec vous. Hein. On peut continuer si vous voulez.
On pourra en parler pendant 3 jours.
Non, mais ça fait 3 jours. Peut-être une dernière petite question. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas parler au micro et ça fait plaisir.
Vous voulez que je vous trouve du monde qui parle?
J'irai faire un tour.
D'accord.
Mais tout à l'heure, vous aviez dit que c'était un mouvement inédit depuis mai 68 et tout ça. Alors moi, de ma réflexion personnelle que je m'étais fait, c'est que ça me fait penser à s'il y a un mouvement citoyen, en tout cas de que j'ai vu, qui s'est lancé un peu comme ça, ça a été Nuit Debout, qui a été aussi initié par beaucoup de citoyens qui savaient pas trop comment faire et qui ont créé aussi une manière de manifester qui était inédite et qui était de se retrouver au centre des places des grandes villes.
Il y avait combien de personnes à cette manifestation?
Oh, il y en avait beaucoup dans toute la France parce qu'il y avait des Nuits Debout partout. Il y a même eu Albi, à Toulouse. Ouais. C'était difficile de compter, mais j'ai l'impression qu'en fait il y a beaucoup d'idées qui se rejoignent.
Bon, cette révolution ressemble un petit peu à mai 68 quand même, celle-là.
Je pense que ça va un peu plus loin que Nuits Debout.
C'était quoi?
Le but, c'était pas de faire une comparaison qui c'est qui a la plus grosse. C'est juste pour dire que voilà, il me semble qu'il y a eu des mouvements et j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que celui-là attire une partie de la population qui a jamais manifesté, alors que tous les problèmes dont vous parliez, en fait, il me semble que c'est des problèmes qui ont été défendus aussi
qui ont été défendus peut-être de manière plus ciblée.
Monsieur Macron,
il y a des prémices à tout. Nuit debout, c'était une prémisse, aux gilets jaunes.
Vous avez vu la vidéo hier du président ou du roi belge qui s'est adressé à Macron? Vous l'avez vu?
Non.
Vous en avez pas
parlé? Oui, mais je la connais, ça fait 6 mois qu'elle tourne cette vidéo, je sais.
6 mois, ou hier, ou il y a 2 jours, ou 6 mois, il devrait avoir honte de se faire parler comme ça. Parce que moi, si je serais président de la République, qu'un roi ou un président d'un autre pays s'adresse comme ça à moi, je vous garantis que ça me mettrait à réfléchir.
Je vous garantis. Si vous avez vraiment attention à ce que disaient les autres, ils n'en seraient pas là où ils sont.
Exactement, je suis d'accord avec vous.
Enfin bon, mais je vais peut-être continuer à faire un petit tour du rond-point.
Il n'y a pas de problème, merci
beaucoup. À vous. Hein.
Non, merci à vous, c'est important que vous êtes là. Bah on vous remercie d'être venu. Si vous êtes venu, c'est que c'est important.
Bon.
Merci beaucoup.
Je rends compte de ce qui se passe, quoi.
Il se passe que quand t'as plus de pouvoir d'achat, hein, t'es complètement cramé, quoi. Même toi, hein.
Ah ben.
Non mais on est tous pour nous, pour nos gamins, pour tout le monde. Quand tu vois que tu peux pas valorises pas les mecs qui bossent avec un SMIC à 1100 balles et que t'as des mecs, tu leur donnes de plus en plus d'aide pour qu'ils ferment leur gueule, c'est pas valoriser les gens. Ni tu valorises pas ceux qui travaillent et tu valorises pas ceux qui ont pas la chance de pouvoir travailler. Parce que tu leur donnes juste un peu pour qu'ils sortent un petit peu la tête de l'eau.
Ouais.
Comme ils font en Afrique, tu sais.
Et du coup, il y a des... Ah, je vois des plus jeunes. Ah, des jeunes.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Je travaille pour Radio Albigès, je sais pas si vous connaissez.
Non.
Pas du tout.
Albigès.
Albigès.
Ouais,
ça veut dire Albigeois en occitan.
Ouais, merci.
Et donc, c'est cool, des jeunes, parce que je parle un petit peu plus à des vieux, donc du coup...
C'est pas pour ceux qui ont plus de 35 ans, c'est...
Ouais, j'en fais pas partie non plus. Du coup, c'est quoi qui vous a motivé à venir? Est-ce que vous faites partie de... Vous connaissiez avant, ou vous êtes une classe ou
quelque... On est en licence à Carmont.
Ok.
Et on avait 2 heures de cours ce matin et on savait pas quoi faire, on est venu.
Ok. Et licence de quoi?
Management.
Ok.
D'accord.
Et c'est donc vous vous êtes senti intéressé par la mobilisation et
comme on voit le prix du gasoil et tout qui augmente, enfin moi je suis à 2 heures de route de chez moi d'ici, donc le budget par mois il augmente forcément, quoi. Okay. Et du coup ça vient tendu, quoi, au niveau... Parce que les taxes augmentent mais pas les aides, quoi. Donc du coup c'est...
Et du coup, vous êtes donc tous étudiants et vous avez pris donc sur votre temps libre pour venir là sur le rond-point avec les gilets jaunes, quoi.
Ouais, voilà, ça fait.
D'accord. Et c'est votre première manifestation à tous ou est-ce que vous aviez déjà fait ce genre de choses?
Samedi,
samedi c'était déjà les gilets jaunes. Ouais. Mais est-ce que avant les gilets jaunes, vous avez...
Non, pas du tout.
Non plus?
Non, pas du tout. Okay.
D'accord.
Si un peu les agriculteurs, qu'il y a eu des manifestations avec les agriculteurs, comme on fait un métier qui concerne forcément l'agriculture, là on intervient un peu, mais après là c'est surtout celle-là qui nous touche vraiment, puisque le gasoil augmente, même si les taxes, nous on n'est pas forcément taxés parce qu'on ne travaille pas encore, mais nous on vient tous de loin, le gasoil augmente, donc derrière nous les prix ils augmentent forcément, donc derrière les fins de mois ils sont un peu plus justes, quoi. Nous qui sommes étudiants, on n'a pas tous la chance de travailler un peu pour gagner des ronds, donc voilà, on est tous concernés, et puis là c'est notre avenir qui est en jeu, donc voilà. Il faut vraiment se mobiliser. Donc voilà pour notre part. Faut tenir bon.
Et ça a été quoi le déclic qui vous a dit cette fois-ci j'y vais, je fais quelque chose? Parce que bon, il y a quand même des manifestations, des mouvements sociaux assez régulièrement, et qu'est-ce qui a fait que dans celui-là vous vous reconnaissiez plus que dans les autres?
L'appel national, l'appel au soutien. Vraiment là, ça a été vraiment un truc national et tout le monde est concerné, c'est pas comme quand c'est une grève des agriculteurs ou à la limite c'est plus agriculteurs touchés ou autre chose. Là c'est vraiment un appel national, c'est tout le peuple qui est concerné, donc on se doit de se mobiliser. Voilà.
Et donc vous avez cours après cet après-midi là? Vous allez y revenir ou...
Certains cours, mais on n'ira pas. On reste pour se mobiliser.
Ben, c'est bien, hein.
Il faut.
Il n'y a pas que les travailleurs, aussi les étudiants, c'est bien. Hein.
Si les travailleurs le font, nous aussi on se doit de le faire.
Et ben, c'est bien en tout cas.
Merci.
Bon courage à vous, je vais continuer.
Merci.
Oui, donc du coup, je dirais à peu près une petite centaine de personnes sur le giratoire de l'Hermé.
Ça va?
Ça va bien? Et
ouais,
vous?
Ça va. Alors, qu'est-ce que tu fais?
Au déguisement?
T'as tué un cochon d'Inde ou quoi?
Non,
Non, je travaille pour Radio LBGS et je viens voir ce qui se passe ici.
Ouais.
Voilà.
Mais il se passe des bonnes choses, tu vois. Les gens, ils sont là, ils sont tranquilles.
Tu peux me dire ce qu'il y a marqué sur votre pancarte?
Moi, il y a marqué « On récolte ce que l'on sème », mais sème avec le mot « amour ». Voilà.
D'accord.
Et de l'autre côté, le doute m'habite comme Satan. Parce que Satan m'habite.
Oh la finesse. Je vois voilà. Qu'on a fait dans la finesse pour la pancarte.
C'est ça, il y a un côté gentil, un côté un peu plus...
D'accord. Est-ce que vous... Je suis très mauvais niveau estimation chiffres. Là, vous avez compté à peu près combien vous êtes?
Je là, dirais
une petite entre 50 et 100.
Il a dit qu'on était des illettrés, on ne sait pas compter. Nous. Ouais. On ne sait pas compter.
Non, vraiment.
Par contre, voilà, il y aura des propositions à faire. Et des vraies propositions sur l'alimentation, sur la TVA pour les enfants, sur que la cantine ça soit accessible, qu'il y ait des vrais cuisiniers qui reprennent aussi le métier, que la loi 2005 pour le handicap elle soit vraiment appliquée, parce qu'il y a des handicapés qui en chient. Il faut vraiment qu'il y ait des vraies applications de loi. Il faut que la transition énergétique, elle se fasse pas que sur les voitures électriques. Il y a les voitures hydrogènes. Il y a un monsieur à Val-d'Hérias qui a inventé un moteur à eau, on lui a censuré le brevet. Donc le moteur à eau, c'est aussi une alternative qui coûte rien à personne. Hein. Ça rapporte rien aux Émirats et ça rapporte rien à l'État français. Donc il gagnerait juste sur les voitures. Et il y a un vrai débat de fond qu'il va falloir qu'il se fasse. Aujourd'hui, on paye encore des anciens présidents à la retraite. Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing, tous ces gens-là. Les gens, ils sont pas en colère pour l'essence, c'est des conneries. Les gens, ils sont en colère parce que les contrôles techniques, ça a augmenté, ça coûte plus cher. On paye ces gens un prix monstre alors qu'ils sont déconnectés de ce qui se passe dans la réalité. Voilà, la réalité, elle est là. Les gens, ils sont pas en colère, ils sont joyeusement en colère.
Après, je veux dire, moi, pour moi, il n'y a pas de problème à être vraiment énervé quand une situation nous donne de quoi vraiment s'énerver. Enfin, je veux dire, si on écoute toutes les revendications du mouvement et tout ça, effectivement, il y a des raisons d'avoir ras-le-bol et d'être vraiment énervé, finalement. Ouais. Et je veux dire, effectivement, de se rendre compte qu'il y a quand même des problèmes au niveau du gouvernement et que c'est peut-être finalement... Enfin, moi, l'impression que j'ai là, parce que ça fait à peu près une heure que je suis là en train de parler un peu à tout le monde, il y a énormément de revendications de tous bords, des revendications qui n'étaient pas forcément de droite ou de gauche avant. Et donc, du coup, ce serait quoi l'issue possible? Est-ce qu'il y a une issue possible à ça? Est-ce que...
C'est de l'énervement constructif. On peut s'énerver, mais il faut surtout faire des propositions. S'énerver pour s'énerver, ça sert à rien.
Donc, aujourd'hui, vers quoi
c'est des propositions. Satan, tu te rappelles,
hein,
tu cherches la bête là. Non, mais Satan, tout simplement à ce que, je sais pas moi, par exemple, que les retraités, là, les gens quand ils prennent leur retraite, hein, ils peuvent pas vivre avec 1000 euros, il faudrait que la retraite elle soit 1200 euros pour tous les gens. Il faudrait vraiment qu'il y ait encore des lieux publics qui sont vraiment inaccessibles aux personnes en situation de handicap. On peut parler aussi de la sexualité des personnes handicapées. Il y a des gens qui sont tétraplégiques et aujourd'hui, faire l'amour avec quelqu'un, c'est impossible. Alors, est-ce que l'assistance sexuelle, c'est une solution? Je vous dis, après, il y a une vraie réflexion sur les énergies, sur ce qu'on fait de nos énergies, sur est-ce que l'éolien et le solaire, aujourd'hui, il existe vraiment que ça? Est-ce que les voitures, les OE, tous les produits chimiques qu'il y a dedans... alors, c'est facile, on ne le voit pas, nous, parce qu'on n'est pas concerné, on n'a pas de métaux lourds et de métaux rares dans notre pays, mais là où ils creusent, c'est en Chine. C'est des gens qui sont dans la misère.
Ou en Afrique.
Enfin, surtout en Afrique, t'as raison. En Guyane, là-bas. Mais ça, c'est intolérable, ça. On peut pas aujourd'hui dire... On peut pas aujourd'hui dire on veut changer le monde et nous, on va bien rouler pendant qu'il y en a qui vont se polluer la tête. Parce que les gens, ils croient que ces gens, ils sont inférieurs. C'est faux, c'est des... On peut pas le tolérer, ça.
Mais du coup, pour moi, c'est des revendications qui ont du sens, clairement. Ouais. Mais pour pouvoir les porter, en fait, du coup, je me suis fait cette réflexion, c'est que, en fait, le problème, c'est un problème de représentation de la population.
Ouais, qui va le porter,
voilà.
C'est ça.
Et donc, c'est ça, et c'est parce qu'au final, si on garde le système qui est en place, un système d'élection et où on est représenté par des députés qu'on élit, qui nous représentent localement, qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être comme solution? Est-ce que ce serait... voter pour des personnes qui continuent à nous représenter, mais sans être trop sûr.
Est-ce que les gens, déjà, ils pourraient pas nous représenter juste pour 5 ans et après faire autre chose? Il y a ça aussi, il y a la vérité, parce que les mecs, ils se mettent dans leurs pantoufles et dans leur confort. Est-ce qu'au final, si le vote blanc, il était vraiment... Moi, je sais pas, moi. On dit, voilà, aujourd'hui, il y a plus de 50% de vote blanc en France. On annule et on recommence. Et on recommence jusqu'à qu'il y ait vraiment des propositions, des vraies propositions qui fonctionnent. Aujourd'hui, moi, je comprends pas, par exemple... que des bateaux n'est pas... L'agriculture et les bateaux, ils ont la même problématique au niveau du gasoil. Sauf que le mec qui va faire son plein de gasoil dans le pour le bateau, il paye pas du tout les mêmes taxes en Angleterre. L'agriculteur ici paye les mêmes taxes partout. C'est ça le vrai fond.
Mais du coup, par rapport au problème de représentation, là, il y a peut-être des... Alors, je sais pas, moi, je suis pas trop renseigné là-dessus, ouais. Mais je sais qu'il y a certains partis qui ont proposé de changer de république, d'arrêter la 5ème république et de passer à la 6ème république.
Les partis, je vais vous dire, c'est tous les mêmes, ils mangent tous ça. Et à l'Assemblée nationale, il y a qu'un restaurant. Il y a un seul restaurant, tout le monde mange là, et le menu, il a 15 euros. Je vous le dis, j'ai travaillé, moi. 15 euros le menu, avec le vin à volonté, hein. Il n'y a pas de problème.
C'est pour ça qu'ils dorment l'après-midi, peut-être.
C'est pour ça qu'ils dorment.
Que quand même.
Je sens, ouais.
Mais du coup, ouais, peut-être finalement réfléchir à la représentation de la population.
Moi, j'y réfléchis à titre individuel, mais j'arrive pas à y réfléchir. Là aujourd'hui, je suis pas là pour amener mes idées à titre individuel. Moi, j'appartiens pas ni à un syndicat, ni d'ailleurs à un parti politique. Hein. Parce que j'ai pas confiance en ces gens-là, tout simplement. Ouais. Après, si demain il y a des gens, ben voilà, il va falloir boycotter les élections européennes. Si les gens ils chopent les bureaux de vote et tout, à l'Europe, qu'est-ce qu'ils font là-bas à l'Europe? On ne sait pas ce qu'ils font, on élit des gens. On ne sait pas ce qu'ils font à l'Europe. Ils tirent sur le tiroir caisse. Hein.
Ils sont à la pointeuse, ils ramassent leur journée et puis c'est tout.
C'est
quoi.
Ça. C'est...
On est bon
et après, c'est surtout qu'il faut aussi peut-être libérer le journalisme aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des gens, aujourd'hui pour avoir une carte de presse, c'est l'État qui l'a fournie, la carte de presse. Vous l'avez pas parce que, mais c'est bien de pas l'avoir cette carte là, c'est très bien. Mais il y a des gens qui ont une carte de presse, donc potentiellement, s'ils veulent avoir certains abattements et compagnie et tout ça, il faut avoir cette carte de presse, donc répondre à un droit d'État. Voilà, les journalistes ils devraient pas avoir de carte de presse. Il faut faire du journalisme, ils le font.
C'est un effet dominant parce que TF1, Bouygues, les multinationales, c'est eux qui gouvernent. Macron, c'est un pion.
C'est ça.
Qui est instruit par ces multinationales, qui détiennent 80% même de l'information dans le monde, ne serait-ce qu'en France. Et à partir de là, ben, c'est très simple d'amener tes idées où tu veux les amener. Quoi.
C'est ça. Ouais, je comprends. Hein. Mais du coup, par rapport à ça, pour moi, moi, je suis d'accord avec vous. Hein, le problème, c'est la représentation, mais peut-être le fait de se dire que est-ce qu'une personne peut vraiment représenter un peuple ou pas? Est-ce que vous seriez...
Non, moi je pense qu'une personne elle peut pas représenter un peuple, c'est pas possible, surtout pas un banquier, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Surtout pas un banquier. Une personne elle peut pas représenter... Moi ce que je... à la limite, à l'heure actuelle, dans la forme où c'est fait, ce que je trouverais pas le plus égal, mais le plus équitable, c'est le second tour. Les gens ils ont voté, c'est le premier tour, les gens ils votent. Il y a tant de pourcentages dans chaque, ben ils ont ces sièges-là à l'Assemblée nationale. Et il n'y a pas de président, c'est l'Assemblée nationale qui décide, point. Il faut arrêter qu'il y ait un mec là. C'est pas possible ça,
oui,
ce mec là-haut.
Surtout qu'à l'Assemblée nationale, même s'il n'y a que 10% des mecs qui sont à l'Assemblée, c'est quand même voté. C'est ridicule. Mais alors c'est d'une absurdité totale. Alors,
il faudrait qu'ils soient forcés à être là quand il y a des décisions à prendre. Quoi.
Donc on en revient ni plus ni moins au Moyen-Âge. Où on est à l'époque du royalisme, quoi.
Ouais, c'est ça. Le seul truc qui va faire avancer ça, je pense vraiment, s'il n'y avait pas de président et que ça se jouait tout sur le premier tour, mais après, il faut le premier tour, si les votes blancs ils sont comptabilisés, il y a 50% de l'Assemblée nationale qui serait vide. Mais c'est très bien, 50% de l'Assemblée nationale.
On choisit des gens au hasard dans la population.
Mais pourquoi pas? On peut choisir des gens au hasard dans la population, pourquoi pas?
On a trouvé la solution.
Mais bien sûr que ça pourrait être ça. Bien sûr que ça pourrait être ça.
Chose, hein.
C'est pas plus con. Hein. Et aujourd'hui, les mecs font des contrôles fiscaux. C'est soi-disant au tirage au sort. Et ben là, c'est pareil, c'est au tirage au sort.
Dans un jury de jurés pour les tribunaux, on tire des personnes au sort dans la population pour décider du sort de. Ça peut être d'emprisonnement d'une personne.
Il y a autre chose qu'il faut
pas.
Qui évolue. Les étudiants, ils devraient être mieux pris en charge. Aujourd'hui, on a des étudiants, certains. Oh, il fait le bordel, hein.
Oh, ils sont chiants un peu.
C'est élitiste, ça veut dire que quand les parents ils peuvent accompagner leurs enfants, les parents font des crédits, ainsi de suite, et ça peut fonctionner pour les gamins. Le gamin qui a des fois le potentiel, eh ben, les parents ils ont pas de thunes, ils vont pas pouvoir suivre. Ça veut dire que ceux qui ont la monnaie, encore une fois, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et ceux qui en ont pas,
Moi, je m'en fiche, je travaille avec mes mains, mais je travaille surtout avec ma tête, je le dis.
Tu disais tout à l'heure, il n'y a plus de politique, puisque à partir du moment où ils mangent tous ensemble dans un seul restaurant, ok. Mais en amont, ce que tu oublies de mettre, c'est qu'ils sont tous à l'école, et ils sont tous... c'est des énarques. Et donc, ils étaient tous énarques, et ils se connaissaient tous, amis. Bon, mais toi, tu vas prendre la droite, moi, je vais prendre la gauche, mais enfin, on mange ensemble à la fin du mois, parce que n'oublie pas que je suis le parrain de ta fille, quoi.
Et on voilà. Dit, tout le monde mange ensemble.
Et si jamais...
Et là, t'as tout compris, quoi.
Parce que là, ça me fait penser à juste quelque chose, là, en parlant, parce que bon, c'est vrai qu'il y a ce problème de représentativité de la population, de est-ce que le suffrage avec un président, enfin, voilà, il est pas forcément très légitime, après, pour prendre des décisions pour tout le peuple, et est-ce que... Parmi les derniers candidats qu'il y a eu, il y en a un ou une qui vous semblerait peut-être plus et que vous pourriez plus suivre que les autres.
Ouais, Mickey et Donald. Et bon, ouais, s'ils se présentent, on vote pour eux.
Non, mais honnêtement, moi je sais pas. Là, d'après ce que vous me dites, le problème c'est que du coup, ils sont tous, effectivement, c'est une vérité, de sortir de grandes écoles, d'être plus ou moins amis, tout ça, machin. Ouais, si ça. Je pense juste à un, c'est peut-être Poutou qui sortait un petit peu du lot.
Exactement.
Qui est un ouvrier.
Besançonneau à la limite au départ, mais qui après a tourné une veste. Donc c'est un peu compliqué. Parce qu'on ne le voit rien que dans un grand CE. Le mec, t'es élu au conseil de ton entreprise. Et tu vas à Darty, t'es une centaine de types. Tu vas démarcher pour tous tes potes. Et tu dis à Darty, voilà, mais non, mais je vais voir encore l'autre magasin, j'ai fini. Et Darty, il te fait, ouais, mais si tu le prends chez moi, je vais te filer une télé. Et le vice, il commence là. Petit pouvoir, et t'as compris la suite, quoi. C'est juste une histoire de ficelle tirée, quoi. C'est tout.
C'est la raison, c'est une histoire de ficelle tirée.
Et si jamais il y avait quelqu'un, là, une nouvelle personne qui arriverait, parce qu'on ne sait jamais, des fois, ce genre de mouvement peut faire émerger des personnalités, ou en tout cas des personnes qui réussissent à bien capter l'idée d'un mouvement et tout ça, et qui sortiraient vraiment du peuple, du coup, et pas de tout ça. Est-ce que vous pourriez les suivre et vous dire que ce serait une bonne personne qui...
Moi, ce que j'en pense, et c'est mon avis très personnel, mais on ne peut pas faire de la politique un métier. Ça veut dire quoi, faire un métier? C'est quoi ton métier, politique? Mais ça rime à quoi? Je veux dire, une fois que tu es en fin de vie, que tu as été médecin et tout, que tu as travaillé dans du social, et ces mecs-là qui représentent le médical, ok. Les mecs qui ont fait toute une vie dans les charpents, maçons et tout, qui vont représenter les ouvriers, tout ça, super, quoi. Je veux dire, mais quel est le type qui n'a jamais eu les mains calleuses, qui a fait que bouffer au restaurant, qui n'a rien amené à la société à part sa gueule, juste pour une notoriété, et qui n'a jamais mis un petit caillou pour monter un truc à l'édifice, quoi. Mais c'est hallucinant. On est dans un truc... Toi, tu bosses, t'es dans le monde du boulot, où tu vois plein de personnalités, hein, et tu t'aperçois qu'en fait, ces mecs, ça pourrait être ton frère, ton père, ton copain, ton si, et qu'il y a des mecs qui nous gouvernent qui n'ont jamais, jamais, jamais travaillé.
Connu la vraie vie. Hein.
C'est hallucinant.
Ouais, c'est ça.
Bon, mais merci beaucoup en tout
avec
cas.
Avec plaisir.
Très intéressant de parler avec tout le monde. Je continue mon petit tour.
Ouais. On va voir ce qui se passe là-bas.
Oui, visiblement, on a quelques véhicules bleus qui se sont. qui ont rejoint le mouvement. Bon, mais pour l'instant, ça se passe toujours. Dans une bonne ambiance, si on peut dire. Il n'y a pas d'énervement des personnes. Personne n'est complètement bloqué. C'est en fait plutôt un ralentissement de la circulation. Et puis voilà, quand les routiers décident de s'arrêter aussi, et ben du coup, forcément, ça crée un peu de perturbation. Et ben, finalement, elle n'est pas restée bien longtemps, la voiture de gendarmerie. Bon, et bien en tout cas, j'ai l'impression qu'ils sont là pour rester pendant un petit moment. Je suis pas sûr qu'il y en a qui ont amené des tentes, donc peut-être qu'ils envisagent de passer la nuit sur place. Il y a du bois pour faire du feu, il y a tout ce qu'il faut, il y a des petites tentes, des barnums, un système de cantine presque, on dirait, là-bas. Donc ça a l'air de s'organiser pour rester là un petit moment. Donc on va les laisser, puis on va rentrer, puis on continuera à voir comment ça se passe pour la suite. Voilà, bon, mais c'est une petite immersion dans cette une heure de mobilisation sur le giratoire de l'Hermé à Albi, donc sur Radio Albigès. Et merci à vous d'avoir suivi ça avec nous. Adieu et buon escuto. Quelques mots pour conclure cette immersion en compagnie des Gilets jaunes d'Albi. Plusieurs choses me viennent à l'esprit. Alors évidemment, il est difficile d'analyser un mouvement ou de donner son avis sur quelque chose d'aussi récent, et il faut le reconnaître quand même d'assez inédit. Je dois avouer qu'au départ, j'étais moyennement convaincu par ce mouvement. Pour moi, il était un petit peu trop relayé par des personnes aux appartenances politiques douteuses, comme par exemple la page Facebook Patriosphère, dont le nom suffit à rendre compte de son lien avec l'extrême droite. Peut-être aussi le fait que cette manifestation ait été particulièrement soutenue par Nicolas Dupont-Aignan, qui s'était quand même allié au Front National après sa défaite au premier tour des dernières élections présidentielles. Mais s'il y a quelque chose qui m'a tout autant dérangé, et peut-être même plus, c'est le mépris pour ce mouvement qu'on a pu voir d'une partie de la population, et surtout d'une partie de la gauche, militante ou non d'ailleurs. Avant même de rencontrer ces gens, de chercher à savoir ce qu'il y avait vraiment dans la tête de celles et ceux qui se font appeler les Gilets jaunes, la première réaction d'une partie de la population était de les discréditer, car selon eux, la hausse du prix du carburant n'était pas un motif valable de manifestation. Comme si certains combats étaient plus nobles que d'autres. Tout cela avec une certaine rancœur, du genre « mais vous étiez où quand on manifestait contre la loi travail ? Vous étiez où quand c'était les autres qu'il fallait défendre ?» Et peut-être, mais c'est mon point de vue personnel, une pointe de jalousie de ne pas avoir autant de succès pour leurs propres manifestations. Mais finalement, après être allé sur place, honnêtement, comment rester de marbre face au discours qu'on entend ? Qu'est-ce qu'on peut reprocher à ces gens ? Les mêmes étaient décriés il y a quelques mois quand ils ne sortaient pas dans la rue, et maintenant ils se font regarder de haut car leur combat ne serait pas le bon. Enfin bref, moi j'ai été très content d'aller rencontrer ces gilets jaunes et de réaliser que leurs revendications ne sont pas dénuées de sens, bien au contraire. Alors il se pose maintenant la question de l'organisation du mouvement. Pour avoir participé activement à Nuit Debout, j'ai eu l'impression que ce qui a tué le mouvement, c'est de n'avoir désigné aucun responsable et d'avoir voulu rester sur un mode de participation trop horizontal, qui a été finalement improductif et a permis à quelques personnes de tuer le mouvement de l'intérieur. Quelle voie choisiront donc les gilets jaunes pour faire entendre leurs revendications ? Il va falloir être méfiant car des personnes essaient déjà de se l'approprier, comme Nicolas Dupont-Aignan, hein, cité un peu plus tôt, qui arborait fièrement son gilet jaune pour les photos de presse. Mais il n'est pas le seul, hein. On voit des tentatives de récupération de la part de personnalités politiques de droite comme de gauche. Vous l'avez entendu, les idées ne manquent pas au sein des gilets jaunes. Il faut maintenant apprendre à les revendiquer clairement et ne pas se laisser embobiner par des politiques qui voudront surfer sur la vague. Pour conclure, je dirais qu'avoir la haine contre un gouvernement qui abuse du peuple, c'est normal et plutôt légitime, mais la haine exploitée par les mauvaises personnes ne mène à rien de bon. Trump en Amérique, Bolsonaro au Brésil, Salvini en Italie, nous avons déjà assez de mauvais exemples, à nous donc de montrer le bon.